français, j'en ai déjà vécu, mais les livres français comme ça, c'était vraiment. Je me réalisais quand quelqu'un, il prenait soin de ma vie. Premier miracle, moi je considère vraiment que toutes les naissances sont des miracles. Alors le premier dans ma vie, bah, forcément, c'est ma naissance. Je suis née en plein mois de décembre. J'ai une grande soeur, un grand frère, et puis les deux petits frères qui viendront 15 et 16 ans après moi. La famille de mon père était dans la pauvreté, la famille de ma mère dans l'abondance. Alors, bah, je vous passe un peu les détails pour eux de l'opposition des parents de ma mère concernant son choix marital. Je vous en fais grâce. Mais ma famille a vécu jusqu'à mes 5 ans en région parisienne. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, nous, quand même, on est français. Mes grands-parents et les parents de ma mère ont toujours exercé, enfin, ont exercé à cette époque en tout cas, une protection constante et une surveillance sur mes parents, du fait de cette différence sociale. Le contrôle était tel qu'un jour de printemps 1980, mon père a dit c'est moi à ma mère, je m'en vais maintenant, choisis, c'est ta famille ou moi. Quelques instants après, ma mère nous a réveillés, nous a dit nous habiller, de prendre un frais et de monter en voiture. Elle a mis ses vêtements dans la valise, pris des papiers importants. Quelques instants après, ils sont allés partir. Pour aller où? Personne ne le savait, pas même mon père. Je vous laisse deviner que ce fut un grand traumatisme pour mes soeurs, mon frère, ma soeur et moi. Mais pas sur le moment, parce qu'en fait, sur le moment, on s'est dit waouh, on fait un super voyage, c'est cool. Parce que mon père, en plus, on avait arrêté, il nous disait allez, allez. Il y avait quelques affaires dans la valise et mon père avait. Donc on pensait que c'était ça. Et puis au final, les années ont passé, et puis bah, on s'est aperçu qu'on ne reverrait plus jamais nos jouets, nos copains, nos maîtresses, etc. On a donc atterri en Touraine. Je ne sais pas si vous connaissez la France, mais la Touraine, c'est le jardin, on appelle ça le jardin de la France, c'est près d'elle, et c'est en plein centre. Nous avons d'abord vécu chez un oncle, et puis mon père a trouvé un travail. Et nous avons eu un appartement. C'est dans cette région-là que ma famille vit encore. Je suis désolée, je vois le coup. L'émotion. Petit à petit, on a une vie tranquille et ordinaire. Mais rien, voilà, forcément, cet épisode de notre vie nous a remarqué à jamais. Si on parle de ce moment, ben, c'est parce qu'il joue un rôle dans qui je suis aujourd'hui. Mes parents ont bien sûr été rattrapés par le fisc, l'État. Je ne sais pas exactement ce qu'il devait à l'État, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le travail de mon père ne suffisait pas à tout payer. Nous avions donc cet appartement, nous avions un toit, nous avions chaud, mais à l'intérieur, on dormait sur des matelas pneumatiques avec des duvets. Alors ça pouvait être fun au début, mais voilà. On mangeait, mais on n'avait pas de table, alors on mangeait par terre avec des assiettes et des couverts en plastique, et puis pas toujours à notre faim. Je ne juge pas la décision des parents, parce que s'ils ne l'avaient pas fait, je serais devant vous aujourd'hui. Et j'appellerai cette.
suis sauvé, est-ce que mon baptême est acceptable? Je suis vraiment enfant de Dieu, etc. Ce à quoi Dieu me répondra personnellement lors d'un culte dans une église parisienne. Et en avant de ça, j'interrogeais chaque pasteur que je rencontrais. Mais la réponse, pourtant bonne, était celle qui certainement inspirée, ne me satisfaisait pas. Jusqu'à ce que j'entende audiblement dans mon oreille la voix de Dieu. Il me disait, Estelle, je t'aime, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon enfant, ne crains pas, tu es sauvée. Alors là, j'étais persuadée de la valeur de l'acte de foi que j'avais fait en plongeant dans l'eau. Là, je veux dire, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, de comprendre et accepter, mais quand c'est Dieu qui parle, j'arrive tout autre impact. Quelques mois après mon baptême, je suis attaquée par le mal. En avril 89, j'en ai alors 13 ans. 6 garçons de ma classe m'attendaient au coin d'un chemin, protégés par des buissons. Ils m'ont attiré dans la parole superstuse, mais dans un objet précieux qui m'appartenait et qui m'avait pris. Ces garçons m'ont maintenu et m'ont violé. J'ai toujours du mal avec ce mot, mais c'est pourtant bien celui-là. Lorsqu'ils en ont mis terminé, je me suis habillée, je suis partie prendre le bus, me ramenant à la maison. J'avais une heure de trajet, pendant ce temps j'ai pleuré, et pleuré, et pleuré, jusqu'à ce que j'ai plus d'âme. Et puis j'ai pris une décision, pas forcément la meilleure, me direz-vous, mais c'est la seule qui a pu me sauver, si je peux dire, qui a pu me permettre de survivre. Après avoir pleuré tout ce que je pouvais, plus aucune larme ne sortait, j'ai décidé d'en parler à personne et d'oublier. Ce n'est qu'à 26 ans que cette histoire est remontée à la surface. J'ai donc oublié cet événement et j'ai continué ma vie. Je suis passée par des moments douloureux, spirituellement aussi, parce qu'à l'âge de 16 ans, ma famille, pour des raisons que je vous passe, pas du tout bibliques, bref, ma famille a été bannie d'église où l'on était. Ils ont été bannis en nom de Jésus, par le pasteur, le nouveau pasteur qui était là. C'est comme ça que ma famille a quitté l'église d'Amboise et n'est jamais devenue membre d'aucune église que ce soit. Cinquième miracle. Je reviens. 16 ans, j'avais donc 16 ans, plus d'ancrage dans la foi, plein de désir et d'attraction du monde qui m'ont amené à pécher et à désobéir à Dieu. J'en ai très peur, vous direz-vous, mais je me suis quand même bien de ma relation avec Jésus. Je l'ai oublié, mais je l'avais totalement. En effet, dès que j'avais un souci, forcément, je criais au secours. Tant aussi bien qu'à l'âge de 24 ans, je finissais les études d'infirmière. Et j'avais tellement de doutes sur ma réussite. Ma colocataire, avec qui je vivais à l'époque, qui était dans l'occultisme, qui tirait les cartes, me prédisait un échec total. Et moi, je croyais. C'est ça le pire. Mais c'était vraiment sans compter sur Jésus, son amour inconditionnel et son désir de me retrouver. Après l'annonce de cet échec potentiel, une seule personne pouvait venir à mon secours, Jésus. J'ai donc prié, avant le péché, demander pardon et demander son secours, ce qu'il m'a tout de suite accordé. C'est cette façon que Jésus s'est rappelé à moi et je le remercie. Me voilà donc infirmière, avec l'aide de Dieu, parce que, voilà, comme Dieu est là, rien ne peut lui faire obstacle. Il savait déjà que j'aurais besoin de ce diplôme pour ma vie future. Notre vie future. Je débute donc ma vie, mon premier appartement, mes premières factures, etc. Tout se passe bien. J'aime l'église dans laquelle je suis, j'aime le groupe de jeunes, et puis le groupe public universitaire dans lequel j'évolue, et aussi la chorale, avec lesquelles je m'investis beaucoup. Sixième miracle, accident mortel. Comme ça, je l'ai appelé. Avec mon groupe de jeunes, on partait pour une convention, je ne sais même plus laquelle, puisque je ne suis pas allée. Nous avons eu un accident de voiture, dans lequel il y a eu un mort, un amputé, les deux jambes, trois blessés très graves. Donc je vous imaginez l'ampleur d'accident. Pour faire compte, je ne l'écris pas, mais voilà, c'était un très gros accident. Et nous, qui étions dans la voiture, cinq jeunes du groupe de jeunes, rien. Quelques égratignures. principale de rencontre que j'ai vue de ma région, et c'est là que je rencontre Nicolas. Depuis une année, on s'avoue l'amour que l'on a pour nous, et la personne qui a la scène pour rien dit entre les deux, avant de se marier, quand même, c'est que le petit miracle que j'ai appelé discernement. Un jour pour 2001, dans la vie, je ne sais plus pour laquelle, Nicolas reçoit un discernement de la part de Dieu alors que nous sommes en prière, et me dit: il y a une chose très importante dont tu n'as jamais parlé à personne, quelque chose qui te fait souffrir intérieurement. Et là, me revient en mémoire une chose que j'ai oubliée depuis 13 ans, ce moment où ces 6 garçons de ma classe m'ont piégé. Je me livre à Nicolas tout cela pour la première fois, et le priant. Je suis appelée dans un moment, mais cette souffrance qui est dans cela émergée vient de ressurgir. Elle me fera souffrir consciemment pendant plusieurs années encore après notre mariage. Cette souffrance, celle-ci, elle était mise sous silence pendant 13 ans. Elle agissait dans ma vie, en autant moi toute confiance en l'être humain, et aussi en Dieu. Cette souffrance en moi m'a rendue suspicieuse, alerte comme en son monde, bien qu'on ait tous un peu, on dirait, mais moi, c'était maladif. Ça l'est toujours un peu. Elle m'a ôté aussi toute confiance en moi-même. Je me sentais, et je me sens toujours, pas à la hauteur dans quelque domaine que ce soit. Ce matin, je suis devant vous, mais je ne me sens pas du tout à la hauteur d'être là. Je me sentais assez rejetée, rejetée des autres, et je m'intégrais que difficilement au groupe. J'étais seule, très seule, jusqu'à ce que deux amis aient mon cœur et ma confiance. Aujourd'hui encore, il est difficile pour moi d'accorder ma confiance aux personnes que je côtoie. Cela demande beaucoup de temps et de patience pour m'apprivoiser. Nous nous sommes donc mariés avec Nicolas en 2002, et ce fut l'un des plus beaux moments de ma vie. Nous étions plein de rêves et plein d'espoir pour cette vie future. 8e miracle, je l'ai appelé Marco. C'est ma fille, au fond là-bas. Après notre mariage, la vie avance, et en 2003, notre premier trésor, notre douce étendre Marco est né. On a fait un miracle parce que je devais ne pas pouvoir concevoir, selon la médecine. Et j'en ai quand même mon premier enfant. Quand je passe, la vie est là. Nous faisons donc l'expérience de la parentalité. Nous élevons avec le meilleur de nous-mêmes, mais nous n'oublions pas que nous sommes pécheurs et que le meilleur de nous-mêmes est de loin pas parfait. 9e miracle, j'ai appelé libération. En 2004, depuis la parole de connaissance de Nicolas concernant mon agression, je vis de très beaux moments, des moments et des moments plus difficiles, où la vie me semble noire et ne pas mériter que je la vive. Le désespoir m'emporte souvent et j'ai de plus en plus de mal à me relever. Marco est né, et pourtant ma joie n'est pas parfaite. J'ai peur de lui transmettre ce fardeau.